France Culture. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Averroès, passeur de savoir. C'est notre série de cette semaine consacrée donc à ce philosophe, juge et médecin andalou musulman du XIIe siècle de langue arabe. Ce matin, Averroès et la philosophie grecque. La figure maîtresse dans la pensée d'Averroès, c'est Aristote, philosophe grec qui a vécu au IVe siècle avant notre ère. Averroès a commenté Aristote avec la plus grande minutie, proposant à la fois des petits, des moyens et des grands commentaires. Et il en a fait un éloge extraordinaire. Dans un de ses grands commentaires, Averroès a écrit ceci. « Je crois que cet homme, Aristote, fut une règle dans la nature, un modèle que la nature elle-même a inventé pour nous montrer le suprême degré de perfection humaine accessible dans le monde matériel. » On ne peut comprendre tout à fait cet intérêt d'Averroès pour Aristote sans revenir d'une part à tout le travail de traduction par les Arabes des œuvres philosophiques grecques qu'ils ont trouvées en territoire byzantin, notamment Alexandrie, et sans noter d'autre part que faute d'avoir eu entre ses mains la politique d'Aristote, Averroès a emprunté beaucoup à la pensée politique de Platon, pourtant si différente de celle d'Aristote. L'affaire est donc dans le détail complexe et passionnante, sans parler des débats qui se sont joués à des siècles de distance et dans des mondes culturels différents. Ainsi, Averroès, lecteur des Grecs, après d'autres, répondait aussi bien à Galien, le célèbre médecin né au IIe siècle à Pergame en Asie mineure, qu'à Avicenne, philosophe et médecin persan de la fin du Xe et du début du XIe siècle, né à Boukhara, dans l'actuel Ouzbékistan, et mort à Hamadan, dans l'actuel Iran. Ce qui soulève la question de ce que la culture grecque, dans sa diffusion, doit au monde arabo-musulman. Averroès est un pôle éminent qui renvoie vers des enjeux très larges. Bonjour Christina Serami.
Bonjour.
Vous êtes directrice de recherche au CNRS, spécialiste de la philosophie et des sciences dans les traditions grecques et arabes. Et bonjour Olga Lizini.
Bonjour.
Vous êtes professeure à l'université d'Aix-Marseille, tout en travaillant aussi avec l'université de Genève et celle de Lucerne. Vous êtes spécialiste de la philosophie arabo-mi-islamique et d'islamologie. Les références de vos travaux à toutes les deux sont précisées sur le site de notre émission. Le penseur français du XIXe siècle, Ernest Renan, dans son livre de 1852 « Averroès et l'averroïsme », évoquait une source qui affirmait que le calife lui-même, par la voix de son conseiller et médecin Ibn Tufail, avait encouragé Averroès à traduire et à expliquer Aristote. Écoutez.
Un jour, disait Averroès, Ibn Tufail me fit appeler et me dit « J'ai entendu aujourd'hui l'émir des croyants se plaindre de l'obscurité d'Aristote et de ses traducteurs. Plût à Dieu, disait-il, qu'il se rencontra quelqu'un qui voulut commenter ses livres et en expliquer clairement le sens pour les rendre accessibles aux hommes. Tu as en abondance tout ce qu'il faut pour un tel travail. Entreprends-le. Connaissant ta haute intelligence, ta pénétrante lucidité et ta forte application à l'étude, j'espère que tu y suffiras. La seule chose qui m'empêche de m'en charger, c'est l'âge où tu me vois arriver, joint à mes nombreuses occupations au service de l'émir. Dès lors, ajoutait Averroès, je tournais tous mes soins vers l'œuvre qu'Ibn Tufail m'avait recommandée, et voilà ce qui m'a porté à écrire les analyses que j'ai composées sur Aristote. »
Christina Serami, cette anecdote est-elle exacte? Que dit-elle, qu'elle soit d'ailleurs exacte ou fausse, des rapports que l'on connaît aujourd'hui d'Averroès avec le pouvoir en place à Cordoue?
Exactement. La question, c'est pas simplement si et à quel point l'anecdote historique soit vraie, mais qu'est-ce qu'il nous dit au-delà de la vraisemblance historique. Il est certain que Ibn Rushd, à l'époque, avait déjà entamé une partie de sa production sans doute la totalité ou presque des petits commentaires, enfin qui sont des épitomées plutôt, et qu'il était déjà introduit auprès du pouvoir. Parce que le calife, là qui est cité ici, Abu Yaqub Yusuf, avait été déjà en fait à Séville, bien avant donc d'être calife, et avait sans doute connu Averroès. Il lui demande, enfin, il cherche quelqu'un qui puisse donc introduire lui et sans doute l'intelligentsia autour de lui au texte d'Aristote. Et c'est ce que Averroès, justement, va ensuite faire, parce qu'à partir de la fin des années 60 du 13e siècle, du 12e siècle, il va réaliser une série de commentaires qui sont plutôt des paraphrases par rapport à ses premiers traités d'épitomée consacrée à la science grecque et les adresser parfois au calife lui-même. Donc il y a sûrement quelque chose qu'il faut retenir de ce texte, à savoir que l'autorité dirigeante voulait promouvoir l'histoire de la philosophie grecque, du savoir grec, et voulait le rendre accessible. Et que Averroès l'a fait, si ce n'est pas la directe demande du calife, en tout cas sous cet élan qui était celui du pouvoir.
Et juste une précision, il se trouve où le calife? Parce que
À Marrakech.
Hein. Oui. Et donc, il a des représentants locaux. Et Ibn Tufayl, qui est un très grand penseur, n'est-ce pas? Médecin lui-même, auteur d'un livre.
Oui.
Vous pouvez préciser un petit peu ce qu'il a écrit. Est-il lui aussi à Marrakech ou bien est-il souvent dans le sud de la péninsule ibérique?
Les deux circulent. C'est un empire, vous savez, qui était devenu unique entre le nord de l'Afrique et l'Andalousie, à l'Andalous, et Averroès, comme Ibn Tufayl, circulait en un sens dans cette... Donc on sait pourquoi je disais tout à l'heure que Averroès avait sans doute rencontré Abu Yaqub à Séville, où il était gouverneur, parce que justement, à ce moment-là, il se trouvait à Séville. Ensuite, Averroès lui-même, il sera nommé juge à Séville d'abord, après cette rencontre à Marrakech, ensuite à Cordoue, ensuite à nouveau à Séville, pour finalement revenir à Marrakech en tant que médecin personnel du calife. Donc il y a vis-à-vis du calife un rapport qui est de plus en plus proche, ce qui n'oblige pas Averroès à résider toute sa vie ou la grande majorité de sa vie à Marrakech. C'est l'inverse, parce que durant toute la période justement de la rédaction des commentaires moyens, il se trouve en Andalousie aux prises de son travail de juge. Donc,
Et Ibn Tufayl, peut-être que c'est vous, Olga Lizini, qui pourriez nous en parler un petit peu. C'est un proche du calife, mais il a écrit un livre extraordinaire qui s'appelle L'Éveillé. Le sous-titre, c'est la question pédagogique, n'est-ce pas?
Un livre extraordinaire.
Alors, expliquez-nous un peu, et puis dites-nous s'il a un rapport lui-même à la philosophie grecque.
Bien sûr, Ibn Tufayl est l'auteur du roman de Hayy ibn Yaqzan, qui reprend d'ailleurs un titre, une figure mythique qui se trouve déjà chez Avicenne, même si de façon différente. Et dans ce texte, qui a d'ailleurs été récemment retraduit par Jean-Baptiste Brunet, fait une sorte de narration philosophique. C'est en fait un vrai roman philosophique, un vrai roman, une histoire donc, dans lequel il raconte la formation vers la perfection d'un être humain tout simple.
Qui est un peu à l'état sauvage.
Parce que justement c'est un être humain tout simple, qu'il est tout seul, il n'a pas été élevé par une mère, mais bien par une gazelle, donc par un animal. Il est entouré par la nature, et justement c'est de sa propre capacité d'être humain, s'éveiller exactement, et de comprendre, c'est toute l'histoire du roman, la logique premièrement, les lois de la physique donc de la nature en deuxième moment, et ensuite les grandes lois pour ainsi dire de la métaphysique jusqu'au premier principe, donc jusqu'à Dieu, là où l'ouverture en conclusion du roman semble plutôt être c'est une question à discuter, mais bon, semble plutôt être plutôt s'ouvrir sur une dimension mystique, donc non rationnelle, ou l'ineffabilité du principe.
Donc c'est un Robinson Crusoé. Première, on va pas rentrer dans le détail, mais disons que il y a cette idée de l'état sauvage, d'un retour possible vers la civilisation qui est plutôt un échec.
Oui, exactement.
Et on revient ensuite sur cette île. Est-ce que Ibn Tufayl, qui est proche du calife, qui connaît Averroès, qui est son protecteur auprès du calife, fréquente la philosophie grecque?
Alors, en fait, c'est intéressant et très important de le dire. On essaie de parler aujourd'hui du rapport entre d'Averroès avec la philosophie grecque et Aristote en particulier, mais on pourrait dire que cela est un discours qui peut naître et nourrit la philosophie, la falsafa, donc l'histoire de la philosophie arabe ou écrite en arabe à part entière. Donc, bien sûr, Ibn Tufayl est aussi nourri de la philosophie grecque et des auteurs grecs, mais il est vrai aussi que c'est un rapport, disons, déjà, on pourrait dire, médié ou nourri par la tradition arabe elle-même, notamment Avicenne, auquel j'ai fait référence, ou la tradition mystique. Ibn Tufayl, d'ailleurs, ne fait pas un commentaire, comme on le disait, mais un roman, hein, une histoire. Et donc, les concepts qui sont tout à fait présents, comme les concepts aristotéliciens, comme la forme, la matière, l'acte, la puissance, la potentialité de l'intellect, donc l'interrogation sur l'intelligence humaine et son rapport avec l'intelligence divine, sont toutes des questions et de thèmes qui sont déjà, bien sûr, présents dans le roman de Ibn Tufayl.
Alors, passons maintenant à Averroès et à son rapport particulier au sein de la philosophie grecque, à Aristote. Je vous propose d'introduire ces questions par une archive d'Alain de Libera, qui est un très grand spécialiste français de la pensée arabo-musulmane, et les questions qui concerne la foi et la raison, pas seulement d'ailleurs dans le monde arabe. C'est un spécialiste extrêmement global que nous aurions beaucoup aimé recevoir. Ça n'est pas possible. Voici donc une archive de lui.
C'est vrai factuellement que s'il n'y avait pas eu la philosophie arabe, il n'y aurait pas eu la transmission de la philosophie grecque au monde latin, ou en tout cas pas à ce degré et pas à ce niveau de développement. À la fin du XIe siècle, le monde arriéré, sous-développé intellectuellement, c'était le monde occidental. Et par conséquent, le phénomène que je décris sous le nom d'arabisation de la pensée occidentale est une crise, un phénomène d'acculturation. Il s'agit véritablement d'acquérir, de s'intégrer à la culture d'autres, les Arabes, héritiers des philosophes grecs.
Ça n'est pas purement le discours d'Aristote là, qui passe par les Arabes. C'est Aristote qui
c'est
le
Aristote
connaît, c'est le traduit.
C'est Aristote adapté, remanié, hein. Développé, inséré dans un contexte où la religion joue un rôle très considérable et où l'ascétisme religieux joue un rôle très considérable.
Alain de Libera s'exprimait ici au micro de Gilles Lapouge dans l'émission Agora de France Culture en 1991. Christina Cerami, le monde latin, occidental, chrétien, est-il, lui, le monde arriéré, comme le suggère Alain de Libera, au XIIe siècle, à l'époque d'Averroès?
En un sens, oui, il a tout à fait raison. Je suis en accord total avec ce que Alain de Libera vient de... l'archive nous dit, il suffit de rappeler que déjà au Xe siècle, Cordoue était la plus grande ville de l'espace méditerranéen, enfin de l'espace européen, avec une bibliothèque de, dit-on, 400 000 volumes, ce qui est peut-être une exagération, mais qui nous donne une idée assez précise de l'importance du savoir grec, mais pas seulement, parce que au moment du grand mouvement de traduction, ont été traduits la quasi-totalité effectivement des sciences grecques, mais aussi indiennes, babyloniennes, donc le monde du 8e, 9e siècle à l'est de l'Empire a en un sens attiré, a été le point de concentration de toute la culture de l'époque, donc pas simplement la grecque. Beaucoup de cela a été ensuite envoyé à l'ouest de l'Empire, donc l'Andalousie à l'époque de Averroès était déjà un espace culturel et politiquement avancé, politiquement au sens strict, parce que il y avait des hôpitaux, il y avait, l'Andalousie était un territoire extrêmement avant par rapport, non seulement scientifiquement, mais aussi politiquement par rapport au reste de l'Europe.
Mais vous qui êtes spécialiste de philosophie, de l'histoire de la philosophie et des sciences, alors nous disons dans notre monde médiéval, c'est vraiment une conception d'occidentaux, est-ce que les lettrés de ce monde latin, occidental, médiéval, lisaient le grec? Connaissait très bien la philosophie grecque. Non. Et personne n'a songé à traduire ces gens en latin.
Alors, il y a un nom assez, relatif, au sens où déjà, effectivement, au XIIe siècle, il y avait des traductions d'une grande partie des traités médicaux de Galien et des autres médecins, en fait, arabes, qui circulaient dans le sud de l'Italie, mais et quelques traductions, surtout, disons, antérieures à cette période-là, qui concernaient une partie de la logique, mais il n'y avait sans doute pas les conditions matérielles qui permettaient justement de faire émerger un mouvement de traduction comme celui qui s'est produit à Bagdad et qui après se produira quelques années, plus ou moins à la même période qu'Averroès et quelques années après à Tolède et dans le sud de la France. Mais disons, donc, à cette époque-là...
Ils ne lisaient pas dans le texte les lettrés médiévaux occidentaux.
Ils ne lisaient pas le grec à cette époque-là. Ils ne le faisaient pas non plus les lettrés arabes. Averroès ne connaissait pas le grec. Avicenne non plus. Et Al-Farabi non plus.
Mais alors, comment ont-ils fait pour traduire?
Farabi, Avicenne, Averroès n'ont pas traduit.
Oui, Averroès.
Averroès n'a pas non plus traduit, il a commenté, il s'est servi justement de ces traductions qui étaient plus ou moins, difficiles à être comprises, parce que parfois... rédévable d'un texte grec corrompu ou traduit de façon quelque peu inintelligible. Donc Averroès se plaint parfois de l'état des traductions qu'il a reçues. Il cherche d'autres traductions, par exemple dans le cas de la métaphysique, il en avait sans doute au moins 5 en fonction des différents livres. Donc il fait lui-même un effort pour trouver des textes qui pouvaient... lui faire accéder à la pensée d'Aristote, mais il n'est pas capable de lire le grec.
Ah, alors ça veut dire que c'est un commentateur qui commente à partir de traductions qui peuvent être suspectes d'erreurs, de malentendus. Olga Lizzini, c'est un commentateur qui n'a pas accès à la langue et aux textes d'origine de penseurs comme Aristote qui lui sont si chers.
Oui, c'est bien le cas. D'ailleurs, comme Madame Serami vient de le rappeler, c'est en fait, ça sonne un peu paradoxal, mais c'est en fait le cas de, on pourrait dire, la totalité des penseurs arabes qui ont accès à un corpus de textes, on pourrait dire, déjà traduit par les traducteurs, pour la grande entreprise de traduction qui se passe à Bagdad, et ont donc des textes, en certains moments, écrits en arabe. D'ailleurs, c'est tout un vocabulaire qui va se construire, un vocabulaire technique qui va se construire au fur et à mesure. Et il y a parfois, bien sûr, aussi des thèmes de termes qui circulent, qui se font concurrence l'un à l'autre, par exemple pour la matière. Mais le fait de ne pas connaître la langue d'origine a aussi, on pourrait dire, comme résultat, le fait de former une langue technique philosophique arabe et un corpus de textes philosophiques arabes. Quand Averroès, il commence son entreprise de commentateur, il ne se base pas seulement... C'est tout un travail, bien sûr, qui prend tout le long de sa vie. Mais il ne se base pas seulement sur le texte d'Aristote, justement parce que le texte d'Aristote est difficile à comprendre et à intelliger. Il essaye de repérer les interprétations possibles du texte, comme à partir de plusieurs traductions, comme Madame Serami le disait, mais aussi en essayant de voir quelles sont les interprétations possibles, qui sont les interprétations des commentateurs grecs, mais aussi des ses prédécesseurs arabes. Et le travail de critique aussi, par exemple par rapport à Avicenne, passe aussi par ce parcours, de repérer le texte d'Aristote lui-même. On pourrait dire que on n'a pas accès à la langue grecque, mais on développe, Averroès développe une capacité exégétique extraordinaire d'essayer de extraire, on pourrait dire, le sens du texte aristotélicien.
Alors, hier déjà, nous avons vu à quel point Averroès tient la philosophie qui est née en Grèce pour la sœur de lait, dit-il, de la Révélation. C'est un extrait du livre du discours décisif que nous avions cité. Aujourd'hui, restons d'ailleurs sur ce livre du discours décisif. Je voudrais vous soumettre une autre citation. C'est même obligatoire du point de vue d'Averroès, au nom de la révélation, de réfléchir rationnellement au monde. Et il a cette phrase à un moment donné, « Quiconque interdit cette étude à quelqu'un qui y est apte barre aux hommes l'accès à la porte à partir de laquelle la révélation adresse aux hommes son appel à connaître Dieu, celle de l'examen rationnel qui conduit à connaître vraiment Dieu. » Aristote aide à connaître le Dieu de l'islam.
Ça sonne... bizarre, ça sonne paradoxal, mais en fait, c'est exactement le cas pour Averroès, pour une raison, si vous voulez, assez simple, qui est à la racine de son rapport avec Aristote. C'est-à-dire que la vérité, elle est une seule vérité, on ne peut pas avoir plusieurs vérités. Notre rationalité, justement, vous avez cité le passage, dans son état de perfection, comme c'est le cas d'Aristote, nous permet de saisir la vérité. Et c'est donc en suivant l'outil qui nous a été transmis par les anciens, Aristote surtout, qu'on peut en fait essayer de comprendre le texte révélé est la vérité et la réalité elle-même. Comprendre la réalité n'est pas différent, on pourrait dire, du fait de comprendre la vérité du texte.
Olga Lizini, poursuivez, parce que j'ai encore une question qui va dans le même sens. Qu'est-ce que c'est dans l'islam la tradition du kalam ?
Le kalam, on appelle... de cette façon une tradition richissime et complexe. Kalam veut dire en fait parole, on discute sur le sens à l'origine de cette science, mais c'est en fait, on pourrait dire, plus simplement la théologie rationnelle. La tradition du kalam est une tradition qu'on pourrait aussi et qu'on essaye de reconnaître dans son caractère philosophique parce que les questions posées par le kalam intéressent non pas seulement Dieu, les attributs divins, l'unité de Dieu, mais aussi le monde, la nature, la composition du corps, de l'espace, l'intelligibilité même du monde. Et la philosophie est en fait finalement l'effort de rendre intelligible le monde ou de poursuivre la rationalité du monde. Le kalam, donc, est aussi une forme de tradition de pensée, en ce sens philosophique.
C'est celle du commentaire, de la dialectique. Je suis désolée, mais on a envie de... Nous, quand on ne connaît pas bien cette tradition, on a envie de faire la comparaison d'un côté avec le Talmud, discuter, étudier les textes, se disputer éventuellement, et côté plus latin... La disputatio dans les universités médiévales, etc. Quelle est la spécificité du kalam au sein de l'islam par rapport à ces deux traditions?
Alors, la spécificité du kalam, je dirais, c'est plutôt le fait que l'effort, à partir de certaines questions d'ailleurs... qu'est-ce que cela veut dire vraiment d'être croyant, par exemple? Qu'est-ce que c'est la foi? Et donc, comment on doit concevoir Dieu? C'est justement, non pas seulement un travail de questions ou de débat qui se construit, mais un vrai parcours de, on pourrait dire, de Weltanschauung, ou de vision du monde. Et donc, tradition, dans ce sens-là, philosophique.
Sur ce point, Christina Cerami, vous voulez ajouter quelque chose?
Oui, enfin, je continuais effectivement à m'appuyer sur ce que Olga, Madame Lizzini, disait pour insister sur le côté rationnel. Le kalam, c'est ilm al-kalam, la science de la parole, et c'est une entreprise, disons, de pensée rationnelle qui a été construite, et s'est construite sur la raison, c'est-à-dire non seulement sur les textes sacrés, sur le Coran ou les hadiths, mais aussi sur s'appuyant sur la raison humaine, à partir de la raison, ce que l'homme peut arriver à dire de Dieu, de lui-même, et de la façon dont on peut connaître le réel et son principe ultime.
Et vous diriez que c'est un moment dans l'islam privilégié, un peu exceptionnel, où le kalam, à l'époque d'Averroès, a pris une énorme place? Ou bien ça a toujours été le cas et nous connaissons juste très mal.
Je dirais plutôt la seconde, mais pas vous. Nous aussi, spécialistes, disons, c'est un travail, un grand travail en cours qui se fait encore maintenant pour effectivement faire remerger des textes qui ne sont pas édités ou traduits, qui sont mal connus en tout cas. Mais le kalam et la falsafa sont
la philosophie grecque,
qui se réclame d'un héritage grec, parce que c'était un choix assumé depuis le début avec Al-Kindi, le fait de considérer les savants grecs comme, ses propres, dont on se considère comme des héritiers. Le kalam n'a pas cette volonté-là de se rattacher au monde grec, mais c'est tout à fait une entreprise rationnelle, de pensée rationnelle, donc qui a ouvré parallèlement à nos penseurs.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mulman.
Nous parlons d'Averroès toute cette semaine. Il aurait eu 900 ans cette année. Il était un philosophe, un médecin, un juge, andalou, de langue arabe, musulman, du XIIe siècle. Et je suis en compagnie ce matin de Christina Cerami et d'Olga Lizzini pour évoquer, c'est un épisode particulier au sein de cette série, le rapport d'Averroès à la philosophie grecque et notamment à Aristote. Je reviens vers vous, Christina Cerami, pour vous demander comment un autre auteur grec qui s'occupe beaucoup d'anatomie, qui était un très très grand médecin, du nom de Galien, né au IIe siècle à Pergame en Asie Mineure. Galien qui a complété la vision de la médecine provenant d'Hippocrate. Alors lui, il a vécu bien avant, plusieurs siècles avant notre ère, en Grèce. Comment reçoit-il tout cela? Je veux parler d'Averroès, bien sûr. Et surtout, puisque Galien a trouvé d'autres organes qui n'existent pas dans les textes d'Aristote sur les corps, pas seulement le corps humain, mais les animaux, comment lui, Averroès, regarde-t-il les ajouts de Galien par rapport à Aristote, Averroès qui, lui, est si soucieux de retrouver Aristote et seulement Aristote?
Très bonne question, parce que Galien incarne en un sens une des cibles polémiques pour Averroès les plus... violente, et également, représente pour lui une grande menace pour l'aristotélisme, pour Aristote, que Averroès, il faut bien le rappeler, ne considère pas comme, disons, une simple autorité figée. Le corpus aristotélicien n'est pas pour Averroès le dernier mot de la science humaine. La science doit non pas contredire, mais continuer l'entreprise scientifique que Aristote a portée avant et qu'a incarnée, comme on l'a vu tout à l'heure, de façon presque parfaite. Mais la science ne s'arrête pas au IVe siècle avant Jésus-Christ. Pour Averroès, cela est absolument absurde de même le penser. Et Galien a fait progresser considérablement avec les médecins qui l'ont précédé au IIe siècle avant Jésus-Christ à Alexandrie, a découvert beaucoup dans le corps humain des parties anatomiques, mais aussi de la physiologie humaine, des points qui étaient inconnus à Aristote.
On peut donner un exemple?
Les ovaires,
mais il y en a peut-être d'autres.
Les ovaires, les nerfs, que Galien n'a pas découvert, mais qui a, sur lesquels a construit toute la son anatomie, ou la circulation sanguine, le cerveau. Galien a systématisé tout un ensemble de découvertes faites avant lui et les a rendues en quelque sorte un système global qui permettait donc une reformulation de l'humain qui allait au-delà de ce que Aristote avait fait lui-même. Et les ovaires, évidemment, sont un cas paradigmatique, oui. Qui risque, en un sens, de bouleverser la vision illomorphique d'Aristote, qui consistait... c'est-à-dire la vision qui consistait à considérer le réel comme le produit d'une information, d'un principe et sur une matière.
D'une forme.
D'une eidos, d'une ousia qui va justement informer, constituer.
Non, ulé, ça veut dire c'est la matière.
Ulé, c'est la matière.
La matière est morphe. Et le morphe,
oui,
c'est la forme, excusez-moi.
Non, désolé.
Je voulais, il faut expliquer tous ces adjectifs un peu techniques.
C'est certain. Donc, dans le cadre de la vision de l'humain, et de la génération humaine, animale, pour Aristote, la femelle donnait donc la matière, ce principe qui devait être informé par le principe masculin, qui donnait par la sémence sa forme. Or, il y a beaucoup de nuances à rajouter. La femelle, la femme, n'est pas, et la matière n'est pas totalement amorphe, c'est-à-dire a ses propres principes constitutifs, donc interagit avec le principe du mâle, mais le mâle...
Du mâle avec un chapeau sur le A, oui.
Oui, dans oui. ce cas-là, oui. Et le fait de considérer qu'il y a un organe qui produit une sémence, ce que Galien a, à juste titre, pensé, aurait pu remettre en question ce paradigme d'explication biologique et métaphysique. Et Averroès passe beaucoup de temps et fait un grand effort pour expliquer expliquer que, justement, cette découverte-là, avec les autres, ne remet pas en question Aristote, mais la tâche, justement, de l'aristotélicien moderne, c'est-à-dire au temps d'Averroès, consiste précisément à expliquer comment, en fait, les textes d'Aristote contiennent déjà en puissance les découvertes qui seront faites par la suite par les médecins comme Galien.
Donc, dans cet exemple, on peut dire, oui, Aristote n'est pas contesté, il y a un principe du mâle et un principe de la femelle qui ensemble contribuent à créer une forme sur la matière à venir et ça donnera un enfant.
Exactement. C'est-à-dire, le principe de la division des sexes n'est pas un principe de, on pourrait dire chez Aristote comme chez Averroès, entre guillemets, misogynie ontologique, mais des complémentarités. Le mâle et la femelle, le principe formel et le principe matériel sont un complément et constituent un complément l'être, ouais. La vie et c'est pour ça que la femme ne joue
pas
un
que
rôle.
La matière, elle informe aussi, pourrait être. C'est ça que
vous on pourrait dire qu'elle oui. contribue aussi de façon essentielle. La séparation de sexe est pour Aristote comme pour Averroès, on pourrait dire un mal pour un bien parce que ça permet justement la perfection de l'être vivant. Le fait qu'un mâle existe et une femelle existe en séparation l'une de l'autre permet à la nature de concevoir une espèce, de réaliser une espèce qui a un degré de perfection supérieur aux espèces qui sont des hermaphrodites, des plantes, et qui n'ont pas cette séparation. Donc,
entendu. Alors, j'en viens à un autre personnage médecin très très important de langue arabe, Avicenne, qui est né à la fin du Xe siècle, qui a vécu fin Xe, début XIe siècle. Il est né à Boukhara, je l'ai dit au début de cette émission. Il est très très loin quand même de Cordoue. Il est une figure mythique, géniale. Il savait plein de choses déjà comme enfant, une sorte de Mozart des sciences.
Absolument.
C'est un génie enfant, enfin quelqu'un d'extraordinaire dans le domaine de littéraire, philosophique, médical. Avicenne avait sa lecture d'Aristote. Il contestait certaines choses, non ? Il disait que le monde a quand même été créé, il y avait quelque chose comme un créationnisme, alors que Aristote ne le dit pas. Est-ce que je simplifie ?
Oui et non. Là, il faut comprendre qu'est-ce que Avicenne comprend, qu'est-ce qu'il veut dire quand il parle de, je dirais plutôt, instauration dans l'être. Le terme qu'il utilise, ibda, c'est un terme qu'on pourrait aussi traduire comme création, mais qui n'est pas un terme, disons, de connotation religieuse. Pour Avicenne, Aristote est aussi l'autorité au sens, non pas au sens de qu'il faut le suivre sans penser, mais dans le sens que le corpus d'Aristote est le premier corpus philosophique auquel on doit se référer. Tous ces concepts, toutes ces questions, on pourrait dire, naissent aussi autour du corpus d'Aristote, mais l'interprétation d'Avicenne prend, on pourrait dire, à son point de départ aussi dans la tradition néoplatonicienne et dans l'effort de, on pourrait dire, définir de façon scientifique aussi la vérité religieuse. Ce qui fait que, par exemple, par rapport à l'origine du monde, la question se pose vraiment pour Avicenne, alors que pour Aristote, la question ne se pose tout simplement pas.
Pour Platon, oui, il y a de la création chez Platon.
Pour Platon, dans le Timée, il y a un récit mythique. On pourrait dire, d'ailleurs, c'est exactement comme ça que Platon le présente, un récit probable, donc mythique, sur l'origine du monde, qui part de toute façon, qui a de toute façon son point de départ là. La réunion, on pourrait dire, de deux principes, l'un matériel et potentiel et l'autre formel et idéal, pas avec l'action du démiurge. Mais chez Avicenne, les choses changent. C'est plutôt vraiment la préoccupation du passage du non-être à l'être qui se pose. Et ce passage est aporétique en philosophie. On ne peut pas passer du non-être à l'être. On ne peut pas le faire pour la philosophie grecque, on ne peut pas le faire pour Aristote, on ne peut pas le faire pour Avicenne non plus. Mm-hmm. Ce qui fait que, en fait, la création pour Avicenne est éternelle. La création n'est pas une création dans le temps.
C'est la création continuée ?
C'est une, on pourrait dire, c'est une création continuée, mais dans un sens complètement différent par rapport au concept du kalam, qui est aussi en partie coranique. C'est une émanation, donc une émanation, une dérivation nécessaire à partir d'un principe qui est en dehors du temps et qui est donc se constitue comme dans une éternité totale, comme une identité dans le temps, on pourrait
ça,
dire, qui, de toute façon, déclare la dépendance du monde à partir de son principe. Le monde n'existerait pas sans son principe. Et c'est, on pourrait dire, aussi dans cette formulation, si vous voulez, hypothétique, que la conception de la création avicénienne peut en fait se comprendre.
Alors merci, c'est extrêmement clair sur Avicenne. Et Averroès n'est pas d'accord, c'est ça ? Averroès est peut-être plus strictement aristotélicien qu'Avicenne, Olga Lizini ?
Oui, il est, on pourrait dire, plus strictement aristotélicien qu'Avicenne. Averroès reconnaît, et on pourrait dire, il a bien raison, la préoccupation néoplatonicienne et dans un certain sens aussi religieuse qu'il y a derrière le discours d'Avicenne. Il n'est pas d'accord du point de vue ontologique sur cette transformation de l'être, parce que l'être devient aussi possible dans le cas du monde et nécessaire dans le cas du principe. Et il renforce l'idée aristotélicienne de matière et de forme. Le monde, en fait, est la réunion, on pourrait dire, d'un principe matériel et d'un principe formel. Et la création peut se comprendre comme l'acte par lequel Dieu permet la réunion d'un principe formel et d'un principe matériel. Dieu est là, pour Averroès, bien sûr. On a dit...
Mais il n'est pas créateur, alors ?
Il est créateur dans ce sens. Et tout l'effort d'Averroès, quand je disais la compréhension de la réalité et la compréhension de la vérité, donc aussi de la vérité du texte, sont pour Averroès la même chose. Tout l'effort est aussi celui de faire comprendre que cette vérité n'est pas accessible à tout le monde. Donc pour Averroès, on parlait tout à l'heure du Rayl Malkalam, de la théologie. La vérité philosophique est une vérité accessible à l'espèce humaine, donc aux philosophes, à ceux, vous l'avez cité dans le passage, à ceux qui sont aptes à comprendre la vérité philosophique, mais elle ne peut pas être accessible à tout le monde, parce que pour comprendre, si on pourrait dire, l'identité entre vérité philosophique et vérité religieuse, il faut être... on pourrait dire philosophe. Et l'erreur du kalam est, selon Averroès, celui de penser possible
une création,
une communication, communication d'une vérité qui est d'ailleurs, selon lui, n'étant pas basée sur des principes démonstratifs, une vérité
intuitive,
réelle.
Oui. Ouais. D'accord, pardon, j'essayais de sortir des adjectifs pour vous aider, mais bon. Donc ce qu'il faut comprendre, si j'entends bien, c'est que Avicenne, tout génial qu'il fût, a mis en place des principes qui étaient trop simples. Non. En tout cas, cette histoire de création continuée, Averroès pense qu'on n'en a pas du tout besoin. Que Aristote avait raison de ne pas aller par là-bas. Juste si on pouvait, si je puis
préciser,
me permettre,
le rapport Avicenne-Averroès.
Oui, préciser. Et après, un peu rapidement pour finir, pour qu'on puisse ensuite parler du singulier rapport d'Averroès à Platon.
Oui,
aussi.
Bien sûr. Très rapidement, c'est important de comprendre que Averroès ne voit pas dans le système avicénien une forme de créationnisme, ce qu'il voit en revanche dans le kalam. Il considère que le système d'Avicenne est trop, entre guillemets, verticalisé vers le principe divin, qui est cause médier à travers tout un système, disons, de principes ontologiques inférieurs, mais qui intervient en un sens trop directement dans le sensible. Pour Averroès, la nature elle-même a des lois fondamentales, nécessaires, qui trouvent leur nécessité dans, entre guillemets, au niveau de la nature elle-même. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas la dernière des intelligences célestes qui communique les formes à l'intelligence humaine ou au monde naturel. C'est le principe du dator formarum, les latins l'appelaient comme ça, chez Avicenne. La nécessité est ancrée à la nature. Et c'est très important pour Averroès de trouver au niveau de la nature la nécessité qui permet non seulement, disons, au monde de rester tel qu'il est depuis toujours, mais à l'être humain de le connaître. Ce qui fait, disons, le cœur de son épistémologie aristotélicienne.
D'un point de vue politique, c'est quand même une question pour Averroès, comme pour beaucoup de philosophes. Là, il y a une surprise, car apparemment, pour des raisons que j'aimerais bien que vous m'expliquiez juste après la lecture qu'on va entendre, la politique d'Aristote, parfois appelée les politiques d'Aristote, ce gros livre, constitué de plusieurs livres, n'est pas accessible à Averroès. Et donc, il lit Platon. Il lit la République de Platon, qui est accessible, qui ne dit pas du tout la même chose qu'Aristote sur le plan politique, mais qui va être le soubassement de la pensée politique d'Averroès, en particulier sur la question des femmes, car Platon fait une place singulière aux femmes dans la République, même si celle-ci n'est pas très démocratique et profondément hiérarchique et inégalitaire. Écoutez donc Averroès dans un commentaire de la République de Platon.
Et nous, nous disons que les femmes, en tant qu'elles sont de même nature que les hommes, et eut égard à la fin humaine ultime, sont comme les hommes, et ne diffèrent d'eux qu'en degré seulement. Cela veut dire que l'homme, dans la plupart de ses activités, est plus performant que les femmes, bien qu'il ne soit pas impossible que dans certaines activités ce soit tel qu'ils le sont, comme c'est le cas dans la musique pratique. C'est pourquoi on dit que les mélodies sont parfaites quand elles sont composées par les hommes et exécutées par les femmes. Ainsi, la nature des femmes et des hommes est de même sorte, et ce qui est de même sorte est conduit à exercer dans la cité la même activité. Il va donc de soi que les femmes exerceront dans la cité les mêmes activités que les hommes, sauf celles qu'elles ne parviennent pas à faire. Il est alors nécessaire que la plupart des activités leur soient attribuées. Nous voyons qu'elles exercent les mêmes arts que les hommes, mais moins efficacement, bien que dans certains arts elles soient plus efficientes que les hommes, comme entre autres l'art du tissage et de la couture. Quant à leur participation à l'art de la guerre et à ce qui lui ressemble, cela est clairement observable parmi les habitants du désert.
Nicolas Berger, notre réalisateur, lisait ce texte d'Averroès, qui est un commentaire de la République de Platon. Averroès est d'accord avec Platon, Christina Cerami, pour dire que les femmes ont toute leur place dans la cité.
Oui, tout à fait. Vous voyez, vous avez entendu l'extrait, c'est une question de degré, de plus ou moins grande efficacité, mais les femmes et les hommes ont la même nature, donc on revient sur ce que je disais tout à l'heure, sur la complémentarité ou pas des systèmes anthropologiques. On voit là un système qui n'est pas complémentaire, mais on pourrait dire analogique, de comparaison d'une même nature à des degrés différents. Donc les femmes ont la même nature, les mêmes capacités, mais avec, dit Averroès, et en cela, il reprend des idées très aristotéliciennes avec une différence de degré. D'où le fait que la femme n'est pas souvent concrètement à des postes de pouvoir, à des tâches philosophiques ou militaires. Donc il y a encore un principe aristotélicien derrière, d'une efficacité moindre, y compris physique, de la femme, mais il récupère le système effectivement politique de Platon qui prévoit que les femmes ont les mêmes tâches au niveau politique au sein de la polis que les hommes.
Donc c'est un système très hiérarchique chez Platon. Hein, tous les oui. citoyens n'ont pas du tout les mêmes fonctions, les mêmes places, etc. Mais en tout cas, il y a des femmes au sein de cette hiérarchie et a priori, elles sont l'égal des hommes dans leur catégorie de citoyens chez Platon. À vous, Olga Lisini, peut-être sur ce dernier mot, le rapport de Averroès à Platon sur le plan politique. Et au passage, je veux bien que vous m'expliquiez ce qui s'est passé avec la politique d'Aristote pour qu'elle n'arrive jamais entre les mains d'Averroès.
Alors, en fait, c'est une question dont on discute parfois encore. Hein. Le fait est qu'on n'a pas de traduction de la politique d'Aristote, on n'a pas de traces clairement lisibles de la connaissance de la politique d'Aristote dans les textes arabes. On a parfois quelques fragments et quelques références, mais il est vrai que non pas seulement pour Averroès, mais encore une fois pour toute la tradition précédente, c'est la République de Platon qui va constituer le modèle, disons, de réflexion politique. Avicenne aussi, dans sa métaphysique, le chapitre, disons, qui va clôturer son œuvre de métaphysique reprend cette hiérarchisation qu'on trouve dans la République de Platon et donne une forme abstraite et élaborée bien sûr, mais de ce qu'on lit dans la République de Platon, ce qui était déjà le cas chez Al-Farabi avec sa Cité vertueuse, les livres des opinions des habitants de la Cité vertueuse, qui est aussi, on pourrait dire, une sorte, il est beaucoup de choses, hein, ce livre, je ne veux pas réduire tout ça à la République, mais il est vrai que la République de Platon joue un rôle essentiel dans la relecture de Farabi et d'Avicenne aussi, avant que pour Averroès.
Aristóteles lo dijo y es cosa verdadera que el hombre por dos cosas se mueve la primera. Por el sustentamiento que la segunda era, por haber juntamiento con hembra placentera. Si lo dijera yo se me podría tachar, mas lo dice un filósofo, no se me ha de culpar. De lo que dice el sabio no debemos dudar, pues con hechos se prueba su sabio razonar. Que dice verdad el sabio claramente se prueba, hombres, aves y bestias, todo animal de cueva. Desea por natura siempre compañía nueva, y mucho más el hombre que otro ser que se mueva. Y digo más el hombre, pues otras criaturas tan solo en una época se juntan por natura. El hombre en toda época, sin seso y sin mesura, siempre que puede quiere hacer esa locura. Prefiere el fuego estar guardado entre ceniz, pues antes se consume cuanto más el latiz. El hombre cuando peca bien ve que se desliza, mas por naturaleza en el mal profundiza. Yo como soy humano y por tal pecador, sentí por las mujeres a veces gran ardor. Que probemos las cosas no siempre es lo peor, saber el bien y el mal y escoger lo mejor. Saber el bien y el mal y escoger lo mejor.
Aristote l'a dit, Aristóteles lo dijo. C'est une chanson de 1979 du chanteur espagnol Paco Ibáñez. Merci beaucoup Cristina Cerami et Olga Lisini pour tous vos éclairages sur le rapport d'Averroès à la philosophie grecque et tout particulièrement à Aristote, même si nous avons aussi parlé un peu de son rapport à Platon. Les références de vos travaux sont sur notre site. Voici à présent la chronique de Frédéric Worms, dont la série cette semaine a pour thème 1, 2, 3, l'arithmétique de la vie. Voici le pourquoi du comment.
Comment supporter la dualité ? Être deux. Être deux, c'est le titre d'un beau livre oublié de Luce Irigaray ou Irigaray. Luce Irigaray, dont il faut, je pense d'ailleurs, relire tous les livres, comme d'autres philosophes féminines et féministes des années 70 et 80 en France. On pense par exemple à Sarah Kaufman ou à Michel Le Duff, trop oubliées, elles aussi. Mais être deux, est-ce un mode idyllique de la relation ? Être cette pensée du couple trop peu étudiée en philosophie, n'est-ce pas aussi le mode de la séparation et du conflit? Pourquoi le fait d'être deux, pourquoi le principe de la dualité est-il si difficile à assumer dans l'histoire de la philosophie? C'est facile à comprendre. C'est parce que la dualité, si on la pose comme irréductible, ce qui définira finalement le dualisme en philosophie, eh bien si on la pose comme irréductible, si on pose qu'on ne peut pas faire remonter la dualité à une unité plus fondamentale encore que cette division, si on pense qu'on ne peut pas non plus la surmonter dans une unité qui dépasse les séparations, justement, la dualité semble poser problème. Et de fait, sans même aller encore jusqu'au dualisme philosophique qui peuvent prendre différentes formes, la relation n'est pas toujours idyllique. Penser le être deux, c'est penser non seulement le couple, l'union, l'amour, bien sûr, entre deux êtres singuliers, mais aussi peut-être leur séparation, peut-être leur risque de conflit, de division et de violence. La dualité est porteuse de tensions, de conflits, autant que d'une aspiration à l'unité et même d'une unité qui s'enrichirait de cette dualité et de cette diversité, l'amour étant non seulement le désir d'unité, mais la reconnaissance aussi de la singularité de l'autre par rapport à la nôtre et du besoin que nous en avons. Mais le dualisme, justement, consiste à assumer la tension entre deux principes, entre deux aspects de l'existence, entre deux aspects de l'être comme absolument irréductibles. Il y a, bien entendu, les grands dualisme métaphysique, par exemple, de l'âme et du corps. Chez Descartes, au XVIIe siècle, il y a une irréductibilité absolue du principe de la pensée, de l'âme qui pense au principe de la matière. La matière est une étendue indéfiniment divisible, alors que la pensée est un acte simple, un acte irréductible. Je pense, je suis, ce n'est pas divisible en partie, alors que la matière de l'univers, au contraire, est saisissable par les mathématiques. Ce dualisme de l'âme et du corps, différent d'autres dualismes philosophiques, au fond pose cette irréductibilité des deux principes comme première. Elle pose aussi la différence entre la science et la métaphysique, entre la nature et l'être humain. Elle réserve la pensée à l'être humain et tout le reste serait des machines. Et ce dualisme, difficile à tenir, a été critiqué d'un côté par des matérialismes réduisant tout à la matière ou par des spiritualismes aspirant tout vers l'esprit. Mais le dualisme peut-être le plus profond n'est pas celui de deux principes dont on a du mal à penser la coexistence dans l'être, qui auront toujours une aspiration à l'unité, mais plutôt à l'intérieur de chaque chose, d'une dualité entre une tendance vers l'unité et une tendance vers la division, entre l'amour et la haine, entre la vie et la mort, entre l'aspiration et la disparition, entre le conflit et la réconciliation. Il y a peut-être en effet un dualisme, et ce dualisme c'est celui de deux directions, une direction vers l'un, une direction vers le multiple, la dualité et le dualisme entre les deux ayant alors quelque chose de fondamental. Oui, être deux, c'est peut-être indépassable.
Merci Frédéric Worms. Nos émissions peuvent être écoutées en podcast sur l'application Radio France ou sur franceculture.fr. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger avec à la technique Nicolas Leroulet. Elle a été préparée en particulier par Victoire Mellet et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Anna Fulpin, Carla Michel, Nassim El Kabli, Corinne Amar. Vous êtes sur France Culture. Vive la curiosité.